Et c'est l'une des complications du diabète, l'une des plus graves également. On fait un zoom aujourd'hui sur la rétinopathie diabétique qui peut être dans certains cas la cause d'une cécité totale. Avec nous pour en parler, notre professeur en ophtalmologie pédiatrique, professeur Daoudi Dressi Jaafar, bonjour.
Bonjour, merci pour l'invitation.
Merci à vous.
Merci pour le choix de ce sujet hyper intéressant, hyper important.
Merci à vous de répondre toujours présent à cette invitation. Alors d'abord, comment peut-on définir justement cette rétinopathie diabétique dont on parle ce matin?
Alors, la rétinopathie diabétique, comme son nom l'indique, donc c'est une complication qui touche la rétine par le diabète. Alors, le diabète, on sait tous qu'il y a deux types de diabète. Le diabète insulino-dépendant,
oui,
c'est-à-dire il faut injecter l'insuline, de type 1, et le diabète de type 2, où on peut, soit avec le régime, soit avec des comprimés, on peut équilibrer le diabète.
D'accord.
Alors, le diabète insulino-dépendant, en général, le début du diabète correspond au début, c'est-à-dire du trouble. Alors que quand il s'agit d'un diabète non insulino-dépendant, la date de début n'est pas très connue et la personne peut être diabétique pendant des années sans se rendre compte.
D'accord.
Et c'est ça qui fait la gravité de même cette forme de deuxième forme de diabète non insulino-dépendant, la forme qui est la plus fréquente. La rétinopathie, c'est l'atteinte de la rétine, comme vous l'avez bien dit dans l'introduction, qui peut toucher la rétine, le diabète peut toucher la rétine et peut provoquer une cécité. C'est un problème, il faut savoir que la rétine, il y a une grande surface au niveau de la rétine, mais il y a une petite zone qu'on appelle foveola qui est au centre de l'œil, au centre de la rétine, de la taille d'une tête d'épingle. Et c'est cette partie qui est responsable de 10 dixièmes, de l'acuité visuelle 10 dixièmes. Alors, tant que cette partie n'est pas touchée par la rétinopathie, la personne peut ne pas se rendre compte. Alors, on peut assister à une rétinopathie diabétique sans que la personne ait le moindre doute qu'il a un problème au niveau des yeux. Donc, c'est une maladie silencieuse et ce qui fait la gravité de la rétinopathie diabétique, c'est qu'elle peut passer inaperçue.
Justement, si elle est silencieuse, comment elle peut se manifester donc? Est-ce qu'on peut la reconnaître finalement, professeur Daoudi?
Alors voilà, alors il peut y avoir des signes en général. Quand il y a une hémorragie intravitrienne au niveau de l'œil, ça peut donner une baisse de vision qui peut être brutale. Il peut y avoir des mouches volantes au niveau de l'œil qui peuvent témoigner d'une petite hémorragie minime. Il peut y avoir des sensations de voile qui peut être centrale quand la partie, la foveola est touchée, quand la partie noble est touchée. Donc, on peut assister soit à une baisse de vision, soit à une gêne, un flou visuel, soit à c'est-à-dire quand il y a une hémorragie foudroyante, on peut avoir une baisse brutale qui peut amener à une baisse de vision importante. Donc
d'accord.
Ça, c'est quand elle est bruyante. Mais le plus souvent, elle est silencieuse. Et seul un examen ophtalmologique va permettre de faire le diagnostic de cette rétinopathie diabétique.
Alors justement, ce diagnostic, on y arrive. Comment le posez-vous, professeur Daoudi?
Alors, il y a l'examen ophtalmo. Bon, on va mesurer l'acuité visuelle, on va mesurer la tension oculaire parce qu'on sait que le diabète peut avoir également, il peut s'associer à la tension au glaucome. On va examiner le fond rétinien, on va voir le stade, on va stadifier cette rétinopathie diabétique parce que il y a des stades de cette rétinopathie, on ne va pas rentrer dans les détails. On peut faire ce qu'on appelle une rétinographie, c'est-à-dire des photos pour archiver et en même temps pour voir où se trouve cette atteinte et quel est le type de cette atteinte. Il y a également l'OCT, un examen qu'on fait systématiquement quand il y a une atteinte maculaire parce que la rétinopathie diabétique peut toucher la partie centrale. Et donc, cette OCT va nous donner les détails de cette atteinte et la forme de cette rétinopathie, parce qu'il y a la rétinopathie diabétique œdémateuse et la rétinopathie diabétique ischémique. Et ces deux types de rétinopathie diabétique, pourquoi c'est important de les connaître? Parce que la prise en charge va être différente.
En termes de traitement, est-ce qu'on peut parler d'un traitement pour tout le monde ou est-ce que c'est du cas par cas?
Non, c'est du cas par cas. La rétinopathie diabétique, la forme édémateuse, bon, il faut d'abord équilibrer le diabète. Ça, c'est le point le plus important. Et on insiste, même si on dit que l'hémoglobine glycée doit être inférieure à 7%, moi, je dirais qu'il faut la baisser jusqu'à 6%, voire moindre. Mmh. Et ça, que ce soit pour la personne qui a le diabète que pour les autres personnes, c'est-à-dire... C'est-à-dire une personne, par exemple, non diabétique, moi, je ne dirais pas que l'hémoglobine glycée doit être à 6,5, mais il faut la laisser dans les fourchettes des 5%.
D'accord.
Comme ça, vous n'arrivez même pas au prédiabète. Mmh. C'est-à-dire que quand vous arrivez au 6%, parce que les gens ne donnent pas beaucoup d'importance à cet examen, à l'hémoglobine glycée, ils pensent toujours à la glycémie. J'ai la glycémie normale. Mais la glycémie normale ne veut strictement rien dire. Parce que vous pouvez avoir une glycémie à 0,9 normale et avoir une hémoglobine glycée à 10 ou 11%, c'est-à-dire un diabète déséquilibré. Donc, il faut équilibrer le diabète. Il faut également équilibrer les facteurs de risque, en particulier la tension artérielle, parce qu'on sait que la tension artérielle, l'hypertension artérielle peut aggraver le diabète et vice-versa. Donc, il faut équilibrer également le cholestérol. Et il faut, bien sûr, ça, ce sont les moyens importants qui permettent en quelque sorte, qui font partie du traitement aussi. Deuxième chose, on arrive au traitement. Alors, le traitement proprement dit, il y a des cas où on va faire le laser, parce qu'on sait que quand il y a une rétinopathie ischémique, il faut laseriser, il faut brûler la zone non utile pour laisser la zone utile qui est la zone centrale. Donc, ce sont des séances de laser qu'on fait, 3 à 4 séances par œil, pour détruire toute la rétine non utile et laisser préserver la rétine utile. Et ça, c'est un point très important parce qu'il y a certaines personnes qui ne veulent pas faire de laser. Ils disent non, non, le laser aggrave la baisse de vision. Non, c'est faux parce que si vous retardez le laser, même si vous faites le laser à la fin, ça ne va pas être efficace. Donc le laser, il doit être fait à un stade précoce avant d'arriver aux complications.
Justement, allez-y.
Et puis il y a des cas où il faut faire des injections intravitriennes de substances qui permettent d'enlever l'œdème, de réduire l'œdème, parce qu'il y a la forme œdémateuse. Et là aussi, il faut faire des injections qu'on fait répéter tous les mois pour faire baisser l'œdème. Donc ça, c'est des traitements. Des fois, on associe les deux. On associe le laser avec les injections intravitriennes. Mais des fois, quand on arrive aux complications, et là, c'est ce que vous voulez me poser la question.
Exactement. Pour ces personnes qui hésitent encore à sauter le pas donc, du traitement par laser, par exemple, si on ne traite pas à temps, quelles complications risque-t-on ?
Alors, il y a des complications, c'est-à-dire que là, si c'est un traitement médical, les injections intravitriennes et le laser, on peut les considérer comme un traitement médical. Oui. Si on passe aux complications, si vous ne faites pas le traitement à temps, vous allez passer aux complications, qui est la rétinopathie diabétique proliférante, avec des membranes fibrogliales, avec des complications, il y a un voile, où seule la chirurgie va permettre, en quelque sorte, de préserver la vue. Donc, il y a des stades. Si on ne traite pas à temps, il y a des complications. Soit l'hémorragie intravitrienne, vous n'allez plus voir, et donc le laser ne pourra pas être fait. Les injections, on peut les faire, mais ça ne va pas résoudre le problème. On passe au stade chirurgical. Dans les cas sévères, c'est la chirurgie qui va régler le problème de la rétinopathie diabétique. Mais chaque cas, comme vous l'avez bien dit, chaque cas, il y a un traitement bien stadifié et bien stéréotypé en fonction de la sévérité de la rétinopathie diabétique.
D'accord. Et est-ce qu'on peut prévenir la maladie, professeur Daoudi ?
Oui, on peut la prévenir parce qu'il faut contrôler cette hémoglobine glycosylée, il faut faire une activité physique, il faut contrôler le diabète, il faut contrôler la tension artérielle, il faut contrôler les facteurs de risque. Donc un régime bien équilibré, il faut contrôler sa glycémie, bien sûr, faire du sport, faire une activité physique et essayer de maintenir cette hémoglobine glycée tout au long de la journée normale. Actuellement, je dirais qu'il y a des pastilles qu'on peut coller sur la peau et qu'on peut mesurer la glycémie toute la journée facilement, sans faire de prélèvement. Et ça, c'est un avantage et c'est un progrès hyper intéressant parce que ça permet de si vous voyez que la glycémie va chuter, il va y avoir un alarme qui va vous indiquer qu'il faut manger. Et quand vous allez manger une petite quantité pour faire augmenter la glycémie tout en contrôlant votre glycémie.
D'accord. Et donc, c'est nouveau, ça.
C'est nouveau, c'est hyper D'accord. intéressant.
Oui.
Et donc, c'est pour pouvoir manger tout en contrôlant sa glycémie tout au long de la journée. Donc, sans prélèvement. Sans faire de prélèvement.
Alors maintenant, si la rétinopathie diabétique est diagnostiquée, que conseillerez-vous à ces personnes qui sont concernées ce matin ?
Alors je dirais pour les personnes, par exemple en cas de grossesse, avant de faire la grossesse, c'est avant que la femme tombe enceinte, il est conseillé de faire un examen ophtalmologique et d'équilibrer son diabète parce que la grossesse constitue une aggravation pour les personnes qui ont déjà une rétinopathie diabétique. Donc, il faut équilibrer le diabète, vous vérifier s'il n'y a pas de rétinopathie diabétique avant de programmer une grossesse. Premier D'accord. point. Deuxième point, les règles d'hygiène de vie, le sport, l'activité physique, l'alimentation équilibrée, arrêter le tabac et puis contrôler les facteurs de risque. Ça, c'est un point très important, même si on les répète, c'est hyper important, c'est équilibrer la glycémie, la tension artérielle et puis le cholestérol. Donc, en d'autres termes, le meilleur moyen, c'est la prévention. Et puis, quand vous arrivez au stade de la rétinopathie diabétique et que votre médecin vous dit qu'il faut faire le laser, il faut le faire, il ne faut pas attendre. Parce que c'est ça le problème qui arrive, c'est que les personnes, ils hésitent pour faire le laser et ils retardent le traitement et on va tomber dans les stades sévères où ça nécessite la chirurgie.
Merci beaucoup, professeur Daoudi Drissi Jaffar. Vous êtes professeur en ophtalmologie pédiatrique à Casablanca. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions sur Médian.
C'est moi qui vous remercie. À très bientôt.
À très bientôt. Et c'est un entretien que vous pouvez réécouter sur notre site médian.com.